7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est actrice et elle publie un premier roman.
Bonjour Isabelle Carré.
Bonjour.
En lisant votre premier roman, très autobiographique, Les Rêveurs chez Grasset, je ne cessais de penser à la phrase de Sartre, l'enfance décide. Mm-hmm. C'est le cas, non, chez vous?
Oui, bah oui, ça, c'est vrai que d'avoir une famille d'un côté aristocratique, d'un autre côté, cheminot. Bon, déjà, c'était une grande richesse. Et puis, je pourrais dérouler comme ça toute l'histoire. C'est vrai que
on va la dérouler.
Oui.
Je suis le fruit de deux malentendus, de deux orgueils blessés qui se sont réchauffés un moment. C'est ainsi que vous décrivez vos parents. Deux malentendus. Pourquoi?
Ben parce qu'ils se sont rencontrés pour des raisons assez étranges, peut-être un manque d'écoute de la part de leur famille pour chacun. C'était des gens qui a priori n'étaient pas faits pour se rencontrer. Ils se sont rencontrés dans des circonstances particulières. Mais j'aime bien cet amour-là aussi. Et puis voilà, j'aime bien aussi l'idée du hasard. Qu'est-ce qui fait qu'on est là? On aurait pu ne pas être là. Moi, je suis le fruit effectivement de ce hasard. Et si cette lettre n'avait pas été déchirée, c'est parti à la poubelle, je ne serais pas là non plus.
La lettre déchirée dont vous parlez, c'est celle que la mère, le personnage de la mère, oui, va déchirer. Je dis le personnage de la
J'aime
mère.
J'aime bien que vous disiez personnage, voilà. Ouais, parce que c'est un roman autobiographique, mais on pourrait dire, voilà, les éléments sont autobiographiques, mais j'ai redistribué les cartes à ma façon. J'ai suppléé la mémoire par l'imaginaire, et ça, c'est le travail que j'ai préféré faire, en fait. C'était...
Vous dites que vous ne racontez que la partie émergée de l'iceberg.
C'est ça, exactement. Là, le livre devait d'ailleurs s'appeler comme ça. Puis finalement, Les Rêveurs.
Partie émergée de l'iceberg.
Oui. Ah ouais. C'est un peu compliqué.
Bon, pour les auditeurs qui ne comprennent pas de quoi on parle, pourquoi on parle, oui, de deux malentendus, on va le dire clairement. Votre père est en fait homosexuel. Mm-hmm. Il va s'assumer de plus en plus en montrant des signes. D'abord, il se teint les cheveux, il fait la musculation, il fait ce que vous appelez dans le livre des demi-coming out. Et puis à un moment, un jour, il vous crie, à vous, ses trois enfants et à sa femme, je suis homo, c'est comme ça, vous devez m'accepter comme je suis.
C'est aussi la peinture d'une époque, en fait. Je pense qu'on le voit dans le livre, pour l'un comme pour l'autre, ma mère s'est retrouvée à devoir presque abandonner un enfant parce qu'elle était fille-mère. Voilà, il faut se replonger dans l'époque, et c'est vrai que être homosexuel dans les années 50, 60, 70, même si mes 68 passaient par là, c'était pas encore si simple.
Mais 68 n'a pas tellement passé par vos parents. Vous dites le souffle révolutionnaire de mai 68 n'est pas passé par là. Et c'est vrai que, notamment chez votre mère, elle pense qu'on tombe enceinte en embrassant un garçon. On voit vraiment le décalage, pour le coup, de cette quasi-fille mère, puisqu'elle ne le sera pas, puisque finalement votre père va l'épouser, et de votre père homosexuel. On voit qu'ils sont... combien c'est dur à ce moment-là.
Oui, c'est ça. C'est en fait la petite fille. C'est là où les souvenirs qu'on s'invente, disait Shakespeare, sont les plus beaux. Moi, j'ai écrit ce livre sans mener d'enquête, sans essayer d'interviewer les uns et les autres, sans retrouver des archives, des photos. J'ai simplement essayé de me remettre dans l'état d'esprit de cet enfant qui voyait ça, cette opacité, qui ne comprenait pas tous ces mystères. Et je pense, Joyce Carol Oates a écrit un livre dernièrement très beau, Le paysage perdu, qui dit que peut-être un écrivain, c'est quelqu'un qui s'est attaché au mystère de l'enfance, à tel point qu'il a eu besoin de les écrire. Et de voilà, donc le livre, c'est une espèce de hommage, en fait, à ces questions de l'enfance.
Qu'est-ce qu'une jeune enfant, une jeune ado qui découvre que son père est homosexuel, pense? Qu'est-ce qu'elle ressent à la fin des années 70, au début des années 80?
Aucun jugement, en fait. Plutôt un soulagement d'être dans la vérité. Ces gens sont, ces rêveurs, dans le livre, ce sont des gens qui se bricolent un peu leur vie et qui, petit à petit, malgré tout, malgré toutes leurs difficultés, tout ça est bancal, c'est douloureux, mais finissent par trouver leur vérité. C'est un roman d'apprentissage, en fait.
Vous dites que vous avez décidé d'écrire ce livre aussi parce qu'au moment du mariage pour tous, au moment des débats, des manifestations, tout ça, on n'a pas entendu les témoignages des enfants d'homosexuels. Vous dites, si c'est difficile d'être l'enfant d'un homosexuel, c'est d'abord à cause de vous, à cause du regard des autres.
C'est ça, à cause de ce jugement. En fait, ces manifestations, c'était quoi? Nous serions malheureux. Mais comment on peut décider du bonheur ou du malheur des autres comme ça, sans même les écouter? Je cherchais partout à cette époque-là, pendant ces manifestations, des témoignages en me disant peut-être que je vais pouvoir en lire et puis me retrouver moi aussi en tant qu'enfant d'homo. Et je n'en trouvais pas. Il fallait vraiment aller dans des sites voilà spécialisés, des sites LGBT. Je les entendais pas à la radio, je les entendais pas à la télévision. On ne les invitait pas. On débattait finalement de ce qu'ils étaient censés vivre sans les écouter. J'ai beaucoup aimé le roman de Christophe Honoré, Ton père, où il dit la figure du père homosexuel n'existe pas. Elle n'existe pas en littérature, elle n'existe pas dans les films. Et que dire alors des enfants d'homo? Oui, c'était aussi pour ça que j'avais besoin d'écrire ce livre, pour aussi faire exister cette figure-là.
Oui, les rêveurs, c'est vos parents, mais c'est aussi vous, vous qui rêvez aussi. Vous dites, on n'est pas malheureux, mais quand même, vous rêvez, vous l'écrivez, vous rêvez à ce moment-là, enfant, d'avoir une famille moins foutraque, moins marginale. Vous dites, j'enviais ceux qui ont la chance de grandir avec des parents classiques, dans des familles classiques, et vous dites cette chose, très juste. Les enfants sont conservateurs, dites-vous. Oui. Ils veulent que le papa soit en costard cravate et que la maman soit en jupe et talons. Et c'est vrai.
Voilà, et en évoluant, on change un peu et on se dit que, je pense que c'est ce que dit tout le livre aussi, quelle richesse. Quelle richesse d'avoir vécu tout ça, et cette ouverture d'esprit, et cette tolérance réelle que ça m'a donnée vis-à-vis des autres. Ça, c'est aussi un cadeau, oui.
Il y a votre père homosexuel, enfin, le père homosexuel, il y a aussi le personnage de la mère qui épouse cet homme gentil à défaut de se marier avec celui qu'elle aime, et dont elle est enceinte, donc cette mère qui va tomber dans la dépression. Vous dites très bien l'impuissance de l'enfant, l'impuissance des enfants, face à une mère qui ne mange plus, qui ne vibre plus, qui ne vit plus, qui se laisse tomber.
Ben, je crois qu'on a tous vécu à des échelles plus ou moins différentes, mais cette chose quand on rentre dans une pièce et qu'un silence se fait quand on est enfant, ces regards échangés, ces tensions, et on ne sait pas les décrypter. Et ce que j'ai aimé dans le livre, c'est... Enfin, ce que j'ai aimé... Oui, ce que j'ai aimé faire, c'est...
Ce que vous avez aimé dans votre vie, en fait.
Ce que j'ai aimé faire, c'était essayer de rendre C'est cette sensation-là, en fait. Et les couleurs aussi, les couleurs des années 70. C'est avant
le rouge de l'appartement.
Le rouge de l'appartement, le marron du plafond, le vert pomme de la chambre.
Ouais. On regarde Blade Runner, on mange du Galak, on écoute War de U2. C'est aussi tout ça que vous racontez.
Oui, c'est plus
il y a
des
une
sensations.
Bande son, il y a du...
Voilà, une pourquoi synesthésie.
Pourquoi vous décidez aujourd'hui, Isabelle Carré, à plus de 45 ans, je donne votre âge, de raconter votre histoire, votre enfance, ses douleurs, votre tentative de suicide à 14 ans? Vous auriez pu rester planqué dans l'image que les journalistes vous accolent en permanence, vous vous en moquez, vous vous moquez de nous dans le livre. Vous dites, les journalistes m'accolent systématiquement deux adjectifs, discrète et lumineuse.
Discrète et lumineuse.
Vous auriez pu rester ça. Vous auriez pu rester discrète et lumineuse et
absolument
sobre et anti-star et ne pas, et vous auriez pu écrire sous pseudo. Vous auriez pu ne pas vous livrer. Pourquoi vous avez décidé de faire ça?
Le livre parle de l'image, en fait, de l'image sociale qu'on donne de soi et que les voilà mais chacun d'entre nous. Alors évidemment, c'est plus vrai pour une actrice, mais on a tous fait l'expérience d'un dîner ou d'un moment en train où tout à coup quelqu'un qu'on croyait si bien connaître se livre et ne correspond absolument pas du tout à l'image qu'on avait de lui.
Et c'est vraiment le cas avec vous, hein.
Et c'est vraiment le cas, oui.
Bah oui, parce que vous êtes discrète et lumineuse, mais en fait, vous n'êtes pas du tout ça.
Oui, mais je pense que c'est la richesse de chaque être humain et c'est ça, c'est de ça dont j'avais envie de parler. Du coup, d'où l'idée de garder mon nom effectivement et de jouer avec cette image.
À la fin du livre, vous dites « Longtemps j'ai pensé comme Léo Ferré qu'avec le temps tout va, tout s'en va. Je ne le pense plus. Tout ne s'en va pas, tout reste. Les voix, les lieux, les images, ça ne s'en va pas. Ça s'éclaircit, dites-vous.
» Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette histoire, c'est-à-dire que de déchirer le voile et puis de garder ses souvenirs, ils sont précieux. J'ai adoré, en fait, s'il y avait peut-être un but à ce livre, c'était retourner là-bas, retourner au pays de l'enfance.
Eh ben, on y retourne avec plaisir avec vous. Ça s'appelle Les Rêveurs, c'est publié chez Grasset. Merci beaucoup Isabelle Carré. J'ai personnellement beaucoup, beaucoup aimé votre livre.
Merci.
Merci à toutes les deux. 7h58.